France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Pour un sport d'une si grande ampleur, il paraît étonnant que le football n'ait connu que très peu de scandales liés au dopage. Si de temps en temps, des footballeurs individuels se font sanctionner pour des pratiques jugées illégales, comme le français Samir Nasri en 2018 pour une perfusion intraveineuse de vitamines, le dernier scandale remonte à la fin des années 90. L'affaire dite des veuves du Calcio commence quand on remarque le taux de décès prématurés élevé chez les anciens joueurs de la première division italienne, chez qui on repère également une prévalence de certains cancers, jusqu'à 10 fois supérieure à la normale. Si une enquête est lancée et dure pendant des années, les pressions extérieures massives finissent par écraser l'affaire, qui résultera tout de même dans une peine de prison ferme pour l'ancien chef de l'équipe médicale de la Juventus de Turin. Le foot serait-il donc un sport propre ? Certains, dont l'actuel sélectionneur Didier Deschamps, défendent que le football est propre parce que le dopage y serait inutile. Le dopage n'aide pas à tirer dans la lucarne, comme il dit. Courir mieux, plus vite, plus longtemps, ne serait donc pas une aide substantielle à l'apport d'un footballeur sur le terrain. Ce genre de ligne de défense révèle la véritable omerta qui entoure le dopage dans le football mondial. Les enjeux monétaires y sont devenus trop importants pour qu'un quelconque scandale puisse éclater. Une affaire de cet acabit ferait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de personnes très fortunées, et donc tout est fait pour y pallier. On découvre ainsi, en avril 2022, que 15 joueurs de première ligue anglaise ont été contrôlés positifs à des substances interdites entre 2015 et 2020, sans que leur nom ne filtre, et surtout sans qu'aucun d'entre eux soit sanctionné. Ce numéro du magazine de la rédaction, présenté par Tara Schlegel et diffusé pour la première fois le 7 février 2014, donne à entendre un reportage saisissant d'Emmanuel Leclerc sur ce silence dans le monde du football face au dopage. Entre mensonges et hypocrisie, donc, le dopage dans le football, c'est tout de suite dans les nuits de France Culture.
Sur le football, c'est l'omerta complète. Il n'y a rien qui remonte officiellement.
Le monde du calcio est un monde impénétrable.
Le monde du foot est un monde impénétrable. Nous avons des repentis de la mafia, mais dans le foot, je n'ai jamais trouvé de repentis.
C'est une affaire d'État, l'affaire Puerto. C'est vrai que ça aurait touché tout le monde, en fait, parce que dans ces clubs espagnols, il y avait des grands sportifs français, étrangers. Voilà, donc c'était une affaire d'État, une affaire internationale.
Dans le cyclisme, les aveux ont été spectaculaires. Lance Armstrong, 7 victoires dans le Tour de France et cette interview choc face à Oprah Winfrey en 2013 où le sportif américain admet avoir usé d'EPO, d'hormones de croissance et autres substances illicites dans chaque compétition. 21 janvier 2014, plus proche de nous, le coureur Danilo Di Luca affirme que 90% du peloton du Giro, le Tour d'Italie, est dopé. Lui-même vient d'écoper d'une suspension à vie. Mais si la petite reine trempe depuis des années dans les scandales de dopage, le sport roi, comme on surnomme le football, serait à l'abri de ces pratiques interdites. Pas de dopage pour les as du ballon rond, malgré quelques tests positifs plutôt rares, il est vrai, malgré le procès de la Juventus de Turin qui déboucha en 2004 sur de la prison ferme dans l'encadrement médical, on veut croire que les sportifs les mieux payés du monde ne boivent pas de cette eau-là. Or, si on contrôle 10% des coureurs cyclistes aujourd'hui, seul un footballeur professionnel sur 2000 fait l'objet d'un contrôle. Dopage dans le football, enquête interdite, c'est un reportage signé Emmanuel Leclerc. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes en compagnie du docteur Jean-Pierre de Mondenard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin du sport et vous avez notamment publié « Dopage dans le football, la loi du silence ». C'était en 2010 par les éditions Jean-Claude Gazevitch. Et puis nous sommes avec Emmanuel Leclerc. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Tara.
Vous avez voulu vérifier si les footballeurs sont vraiment aussi propres que ça, Emmanuel.
Mais écoutez, certains confrères au début des années 2000, justement à l'occasion de l'affaire de la Juventus, avaient parlé d'un monde du football dopé à la mauvaise foi. L'idée, 10 ans plus tard, était de voir quels moyens étaient mis en place pour vraiment lutter contre le dopage dans le football. Le constat, vous allez l'entendre, est édifiant.
Alors vous nous dites qu'on entend beaucoup parler de certains footballeurs français dans ce magazine ?
On entend surtout parler de l'actuel entraîneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps.
C'était donc dans une émission de Thierry Ardisson, on commence par une archive, en 2001, au tout début de l'enquête sur la Juventus de Turin, club dans lequel il jouait à l'époque.
Didier Deschamps, quand vous avez joué avec la Juve, vous avez été entendu par un juge d'instruction turinois. Qu'en est-il exactement ?
Ben, j'ai été confronté trois fois, oui, c'est vrai, à un juge d'instruction qui avant même de poser des questions, était persuadé qu'il y avait du dopage dans le football, qu'on utilisait le PO. Mais le dopage, en règle générale, je pense qu'il y en a dans le sport. Dans le football, je n'ai pas été confronté, parce que je pense sincèrement, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas que le dopage qu'on produit peut... D'un joueur bidon peut faire un super joueur.
Ouais.
Ça n'a jamais fait tirer dans les lucarnes, donc je ne vois pas toute l'utilité. Ça peut faire courir plus vite, ça peut être plus résistant, mais il y a le ballon. Et le ballon, c'est les pieds, il faut savoir le diriger. Donc,
Il y a des matchs très souvent en même temps.
La répétition, évidemment qu'on a des aides au niveau pharmaceutique pour aider à récupérer.
Bonjour Emmanuel Leclerc.
Voilà, ça va ?
Oui.
Bon.
Donc je voulais juste que vous me disiez où est-ce qu'on est exactement.
Ici, alors ici on est donc à l'Institut, sur un des sites de l'Institut Kinésport, qui est un des organismes nationaux en France qui s'occupe de formation pour les kinésithérapeutes et pour les préparateurs physiques dans le domaine de la médecine du sport et des applications sportives.
Donc là on en est à la troisième heure de cours. Hein.
Mon cours dure 3h30 et c'est la pause. Donc vous arrivez très bien. Alors, dans le programme de formation d'aujourd'hui, ces étudiants ont donc un cursus qui dure à peu près un an et demi, et ils ont forcément un enseignement sur la problématique du dopage. Parce que les kinés du sport sont les professionnels de santé qui sont les plus proches des sportifs en heures passées avec eux. Et donc forcément, lorsqu'on est sur la table du kiné, on parle, et on parle de tout, y compris du problème du dopage. Donc il faut que les professionnels de santé, les kinés du sport, soient avertis de cette problématique qui est complexe, qu'ils puissent reconnaître qu'ils agissent en professionnels de santé, et en même temps, il faut qu'ils ne se fassent pas lanterner, il ne faut pas qu'ils soient dupes de la réalité.
Donc on ce jour-là, à 7 dans l'Hérault, Gérardine est chargée de cours. Mais cet hématologue de renommée internationale, spécialiste de l'EPO, est aussi professeur en biotechnologie à l'École des Ponts à Paris. Il fut surtout le seul expert français à participer au début des années 2000 à l'enquête du procureur de Turin en Italie dans un vaste scandale de dopage sportif qui éclabousse alors le très grand club de football de la Juventus où évolue l'actuel entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.
J'ai été expert donc dans le cadre de cette instruction. Je me suis retrouvé dans le bureau de Garagnello à Turin et on a eu à statuer avec les collègues italiens sur l'ensemble des dossiers que la justice italienne avait saisis. Hein, et par conséquent, on a vu ce qui a abouti au procès de la Juve. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de situations anormales du point de vue des dossiers biologiques que la justice italienne avait saisis, qui expliquaient soit que les joueurs étaient malades, soit qu'il y avait des explications pouvant être des manipulations sanguines.
Vous vous souvenez de ce jour où vous avez vu les variations ? Est-ce que vous aviez déjà vu ça avant ?
Oui, bien sûr. En tant que prescripteur de PO chez des malades, on savait exactement ce qu'il fallait chercher. Et on a donc découvert, évidemment, chez tous les sportifs qui avaient des manipulations sanguines, des anomalies qui ne pouvaient pas s'expliquer de leur propre physiologie, ni de leur propre pratique sportive, qui étaient en relation, probablement, avec des transfusions sanguines ou avec des traitements à base de PO. Par rapport à cette histoire de la Juve, si vous voulez, un certain nombre de journalistes ont publié, par des fuitages qui ont été organisés probablement au départ de l'Italie, des résultats appartenant à des joueurs français. Donc avec notamment Didier Deschamps qui a été mis sur le devant de la scène. Ah ben, si les résultats de Deschamps publiés dans la presse sont bien ceux de Deschamps, ça correspond totalement aux résultats qu'on a vus, bien entendu.
Gérardine est intervenue à la demande de cet homme, Raffaele Guariniello, procureur indépendant de Turin, 10 ans tout juste après le premier procès dit de la Juventus. Il a accepté de répondre aux questions de notre correspondante en Italie, Anaïs Feuga.
On a l'impression que l'Italie est le seul pays où la justice vraiment a pu travailler sur le problème du dopage dans le foot. Comment s'est déroulée cette enquête? Sur quoi elle a commencé? Sur des dénonciations, des écoutes téléphoniques, des contrôles?
Devo dire che già lo stesso inizio.
L'histoire est un peu longue, mais pour faire une synthèse, nous étions partis d'une interview d'un entraîneur de foot sur une période dans laquelle il évoquait le danger de consommation excessive de médicaments dans le foot. On ne s'en était jamais occupé. On a voulu faire des vérifications. Quand on a commencé cette enquête, il y a eu un grand mouvement, une grande préoccupation. Quand j'ai commencé, toutes les autorités sportives se présentaient ici chez moi, spontanément, pour me dire que le problème du dopage dans le foot était un faux problème, parce que le laboratoire d'analyse de la CONI faisait des milliers d'analyses sur les urines des footballeurs et on ne trouvait jamais aucun échantillon positif. Donc, il disait que dans le foot, il n'y avait pas de dopage.
C'est un problème di natura internazionale, perché purtroppo.
Il y a un problème de nature internationale, car les pays où le dopage est un délit se comptent sur les doigts d'une main. Ils sont trop peu nombreux. Le dopage a une dimension internationale, mais la réponse de l'État, elle, n'est pas internationale. Nous faisons des commissions rogatoires, des demandes aux autorités, mais dans certains pays, le dopage n'est pas un délit et donc on ne peut pas enquêter.
Donc il y a à la fois des pressions et il y a un tabou. La société ne veut pas entendre parler du dopage dans le calcio, dans le football.
Le monde du calcio est un monde impénétrable.
Le monde du foot est un monde impénétrable. Nous avons des repentis de la mafia, mais dans le foot, je n'ai jamais trouvé de repentis. C'est un monde très fermé. Il est difficile, sinon impossible, de découvrir quelque chose grâce aux témoignages de personnes. Il faut utiliser d'autres systèmes. Mener la bataille contre le dopage rien qu'en utilisant les analyses des échantillons, ça veut dire que c'est perdu d'avance. Il faut un autre type d'action, c'est l'action de la magistrature pénale, séquestration, perquisition, écoute. C'est comme ça qu'on peut affronter le problème concrètement. Tant que je ne verrai pas ce type d'action, alors il me semble que le pays qui ne les prend pas ne veut tout simplement pas prendre le problème à bras-le-corps.
Non lo voglio affrontare realmente.
Arrivederci, grazie.
Lors de cet entretien, le procureur de Turin, Raffaele Guariniello, n'a pas souhaité évoquer le cas particulier de Didier Deschamps ou encore de Zinedine Zidane, dont le profil hématologique ne présentait pas, selon nos informations, de variations suspectes. Tout simplement parce qu'après les appels, les pourvois en cassation au fil des années, l'affaire de la Juve s'est terminée par un vice de forme, de la prescription et l'usage d'EPO n'a pu être établi. Les joueurs concernés n'auront finalement pas été inquiétés judiciairement. En revanche, le procureur Guariniello est loin d'être le seul à partager cette vision du milieu du football.
Sur le football, c'est l'omerta complète. Il n'y a rien qui remonte officiellement.
Pascal Torresilla, c'est un ancien gendarme, l'un des rares à s'être spécialisé dans la lutte contre le dopage entre 2004 et 2009 au sein de l'OCLAEPS, l'office central chargé des enquêtes sur les scandales de santé publique. Habitué des descentes sur le Tour de France, il n'aura eu qu'une seule histoire liée au football, une affaire de transfusion et d'EPO entre l'Italie, l'Espagne et la France près de Lyon en 2008. Enquête avortée très rapidement.
Nous n'avons jamais reçu les fameux listings de ce que vous, journalistes, maintenant connaissez bien, c'est-à-dire les fadettes. Nous n'avons jamais reçu officiellement les informations que les Italiens devaient nous transmettre. Ils nous en ont parlé, on les a rencontrés physiquement dans une station des carabiniers à Cuneo lors du passage d'un Tour de France, mais ils ne nous ont jamais transmis les informations. On avait une espèce de triangle du dopage qui était l'Italie, l'Espagne, avec une base arrière qui était la France. En tout cas, la piste française, pour des raisons que nous ignorons aujourd'hui, n'a pas été exploitée par les magistrats italiens.
Sans les fadettes, Pascal Torresillas et son équipe n'ont pas pu obtenir de saisine d'un juge en France. Mais même sans les fadettes, les renseignements obtenus grâce au carabinier italien, le nom de l'hôtel en question, ne permettaient pas de déclencher une enquête.
Avoir une saisine d'un juge d'instruction demande d'avoir une infraction et la réglementation antidopage avec simplement des contrôles positifs ne permet même pas d'ouvrir des informations judiciaires. Et lorsque vous n'avez même pas des contrôles positifs, vous n'avez pas d'infraction à la loi sportive et vous n'avez pas non plus d'infraction à la loi pénale. Nous n'avions pas assez d'enquêteurs, nous n'étions pas assez nombreux, d'une part, et nous n'avions pas le cadre légal non plus pour pouvoir éventuellement planquer autour de ces hôtels, faire des filatures, voire même des sonorisations. Juridiquement, c'était absolument impossible. Donc il n'y a rien, donc circuler, il n'y a rien à voir. Simplement, il y a l'absence d'infraction. L'infraction de base élémentaire qui permettrait d'ouvrir des enquêtes. L'infraction de base élémentaire serait la pénalisation de l'usage de produits dopants. Ça permettrait de recueillir officiellement des informations, puisque le dénominateur commun à toutes les enquêtes de dopage, ce sont les sportifs qui utilisent les produits dopants. Donc ce sportif-là, il n'y a pas de génération spontanée, connaissent les gens qui leur fournissent les produits, qui leur fournissent les protocoles et qui leur expliquent comment utiliser les produits. Aujourd'hui, dès le départ des enquêtes contre le dopage, on cherche, je dirais, le mistigri en recherchant et en pénalisant que le pourvoyeur de produits, l'instigateur et celui qui donne les protocoles d'usage des produits. Mais on a retiré systématiquement de toutes les enquêtes l'usager, celui qui recourt aux produits dopants. On ne peut pas la mettre en garde à vue, on ne peut pas recueillir ses observations, ses analyses ou ses aveux sur celui qui lui a fourni le produit ou le protocole. On ne peut pas perquisitionner sa chambre d'hôtel, son domicile, celui de son entraîneur ou son véhicule. Si on veut réprimer le phénomène du dopage, il faut avoir une chaîne répressive qui soit cohérente. Il est aberrant de commencer par un non-sens en sortant de la chaîne pénale l'usager.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec le capitaine Mathieu Holtz. Oui. Emmanuel Leclerc, je suis journaliste à la rédaction de France Culture.
Le capitaine Mathieu Holtz co-dirige la petite cellule créée au siège d'Interpol à Lyon en charge de coordonner les affaires liées au dopage.
La première difficulté, il faut que le cadre juridique soit adapté. Même au sein de l'Europe, la plupart des pays n'ont pas les outils législatifs qui leur permettent de vraiment travailler sur les problématiques de trafic de produits dopants. Certains pays sont en pointe. C'est pas un problème d'argent. Vous pouvez avoir des pays très riches, mais qui, pour plusieurs raisons, ne décident de pas s'investir dans cette problématique ou c'est pas une priorité. Donc, ce qui peut faire que deux pays voisins seront confrontés à une problématique, l'un va essayer de travailler, l'autre ne travaillera pas dessus, ce qui fait qu'en termes de coopération internationale, ça va être extrêmement délicat de pouvoir assister nos homologues.
Ça, vous le voyez au quotidien ?
Tous les jours. On le voit tous les jours.
Depuis l'affaire de la Juventus de Turin, c'était il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a eu d'autres affaires de ce type, par exemple dans le football, à l'image de ce que vous avez vécu pour l'affaire Armstrong avec les Américains ?
Il nous arrive de fournir à la demande de certains pays membres des renseignements ou de collecter des renseignements, mais une affaire de cette ampleur, non.
La coopération entre les pays marche en revanche beaucoup mieux sur les affaires classiques de produits en vente sur Internet.
Ça n'a jamais été aussi simple de trouver des produits dopants. Il suffit de vous connecter sur Google, vous tapez « buy stéroïdes », j'achète des stéroïdes. Et ben regardez le résultat en direct, vous avez en 0,27 secondes 21 600 000 résultats. Vous avez les best-sellers, vous voyez les top-sellers, là, des cas du Robolin.
Mais là, c'est des stéroïdes qui sont détectables, là, pour le coup, pour des sportifs d'un certain niveau.
Ça, ce sont des produits vraiment basiques qui ne sont pas à la base destinés aux sportifs qui, eux, trichent et qui contournent les réglementations antidopage. Mais si vous cherchez plus spécifiquement dans certains sites spécialisés, vous allez trouver par contre des produits dopants vraiment haut de gamme qui, pour l'heure, ne sont pas encore détectés ou voire que nous ne connaissons pas encore.
Vous nous avez parlé de la TB500, qui est une hormone très intéressante apparemment pour certains sports.
Elle a été portée à notre connaissance, c'est-à-dire par nos collègues belges. C'était simplement également aussi un achat qui a été fait sur Internet, achat tout à fait légal, puisque c'est un laboratoire qui le produisait situé en Asie du Sud-Est, de manière tout à fait légale, puisque ce produit est destiné aux animaux et pas à l'humain. Ce produit, normalement, a pour objectif prioritaire d'accroître les échanges sanguins, donc le transfert d'oxygène, donc de faciliter l'activité sportive dans un sens. Donc ils se sont dit, si ça fonctionne pour des animaux de course, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour des humains ? Le laboratoire fait ce qu'il veut. Lui, il met à disposition un produit qui peut être acheté par des gens, par des responsables qui s'occupent de courses d'animaux ou ce genre de choses. Il ne va pas lister ses clients. Hein. Donc vous pouvez l'acheter. Après, c'est vous qui êtes libre de votre emploi. Avec le prix quand même très élevé, je crois que la boîte de quelques fioles montait à peu près à 1200 ou 1400 dollars, plus les frais de transport et les frais de douane. Il faut compter une bonne semaine, une bonne dizaine de jours pour le recevoir.
C'est aussi bien que le PO ?
Bah, le PO est détectable, la TB500, sauf erreur de ma part, ne l'est pas.
L'opération Puerto en 2006 en Espagne est partie d'un coureur cycliste tombé malade pour avoir utilisé des poches de sang restées trop longtemps au soleil. Son médecin, le docteur Fuentes, est arrêté, mais le journal Le Monde a le malheur de raconter que ce docteur n'avait pas que des patients dans le cyclisme. Stéphane Mandard est à l'origine de ces révélations. L'actuel chef des sports du quotidien a été et est toujours poursuivi pénalement par les deux plus grands clubs du monde, le FC Barcelone et le Real de Madrid.
Fuentes est très connu dans le milieu sportif en Espagne parce qu'il débute dans les années 80, notamment dans l'athlétisme. On est avant les Jeux de Barcelone et moi, Fuentes me le racontera après. La fédération d'athlétisme l'envoie dans les pays où on sait faire de la bonne médecine, à savoir dans l'ex-bloc d'Allemagne de l'Est et Union soviétique. Il va apprendre son métier là-bas. Donc Fuentes a déjà une réputation dans le milieu de l'athlétisme. On sait qu'il travaille un petit peu avec le football aussi. Et ensuite, il va vers le cyclisme. En creusant un petit peu, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que voulait laisser croire le ministère des Sports espagnol et le pouvoir espagnol, ce n'était pas une affaire de cyclisme, mais une affaire qui concernait différents sports. J'ai parlé de l'athlétisme, mais également le football. Il faut savoir que Fuentes, comme c'était un bon médecin, très rapidement, le FC Barcelone lui a fait une proposition d'embauche à la fin des années 90, début des années 2000. C'était un premier contact. D'autres clubs se sont rapprochés de lui. Et moi, j'ai pu le convaincre de me recevoir dans son cabinet à Las Palmas, là où la police n'était pas allée, et il a pu me montrer les plans de préparation qu'il avait concoctés pour différents clubs de football de haut niveau en Espagne. Moi, j'ai fait un article dans Le Monde en 2006, qui m'a causé beaucoup de problèmes, puisque les clubs incriminés ont porté plainte à la suite de ces articles. C'était des plans de préparation d'une saison entière, voilà, avec des produits qui étaient administrés à certains moments de la saison par rapport à des pics de matchs, par rapport à des pauses, par rapport à des trêves, par rapport à des objectifs de victoire en championnat ou en Ligue des Champions. Voilà, c'était très très précis. Alors c'était des codes qui étaient employés par Fuentes, c'est des codes qu'il emploie toujours pour nommer le PO, les transfusions sanguines, les hormones de croissance, les corticoïdes. Voilà, c'est des codes qu'il emploie dans ses carnets. Moi, quand je fais ces révélations fin 2006, que je rencontre Fuentes lui-même me dit dans l'entretien qu'il m'accorde qu'il a dans son bureau de Las Palmas, près de lui, toutes les fiches des footballeurs, qu'il les garde prêtes pour la police si elle veut venir. Donc moi, je suis persuadé que dans les semaines qui viennent, je vais être convoqué par le juge et qu'il y aura des perquisitions dans son bureau à Las Palmas. Et là, il ne se passe plus rien. Pire, l'affaire est d'abord classée sans suite, le juge est dessaisi. Donc ça va durer 2-3 ans, entre des classements, des déclassements, des appels de l'agence antidopage pour réouvrir cette enquête. On a exfiltré tous les dossiers un peu brûlants qui concernaient d'autres sportifs que des cyclistes pour faire croire à l'opinion publique que cette affaire était, excusez-moi, une affaire de dopage dans le vélo, une de plus comme il y en avait eu des dizaines dans d'autres pays. Voilà. Et je sais que moi, quand je sors ces révélations que Fuentes a travaillé avec des clubs de football, il y a un déferlement médiatique en Espagne. Ça monte très très haut. Le ministre des Sports, même le Premier ministre, jure sur l'intégrité du football. Ce qui me rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé avec Alberto Contador quand il est contrôlé sur le Tour de France. Le Premier ministre de l'époque, Zapatero, dit qu'il n'y a aucune raison de douter de l'intégrité de Contador. Il y avait les mêmes réactions au niveau du football espagnol qu'un journaliste français avait mis en cause. Voilà, c'était simplement qu'on était jaloux de la réussite des résultats des Espagnols qui réussissaient même en France à gagner Roland-Garros, en France, à gagner le championnat du monde avec une Formule 1 Renault française. Donc voilà, c'était vraiment une agression de l'étranger. C'était vécu comme ça par l'opinion publique et par les médias. C'est une affaire d'État, l'affaire Puerto. C'est vrai que ça aurait dû exploser à la face du sport espagnol, du sport international. Ça aurait touché tout le monde, en fait, parce que dans ces clubs espagnols, il y avait des grands sportifs français, étrangers. Voilà, donc c'était une affaire d'État, une affaire internationale.
Et quand vous dites que la boucle est bouclée, ça signifie aussi attaquer un journal français comme le vôtre, et avec des moyens énormes et des demandes de condamnation et de réparation inédits.
Évidemment, quand on demande 3 millions d'euros à un journal de dédommagement pour droit à l'honneur, c'est le droit à l'honneur en Espagne, c'est effectivement une façon de dire à l'ensemble des journalistes qui voudraient enquêter, n'enquêtez pas sur le dopage, sinon on va vous tuer. On a été condamné à Barcelone à 15 000 euros et là on attend le dernier appel à Madrid. Voilà.
Vous n'avez jamais donné les noms des patients, vous en connaissez, et notamment des patients français ou pas ?
Notamment des patients français, oui. Ouais.
Footballeur ?
Footballeur, oui.
Quand est-ce que vous pourrez un jour donner ces noms-là ? Vous ne pourrez pas ou justement ?
C'est compliqué, avec ce procès c'est très compliqué d'en dire plus aujourd'hui, vu ce qui s'est passé. Je suis un peu prisonnier de ça.
Moi, au cours de mon passage à l'Olympique de Marseille, nous n'avons jamais utilisé de substances illégales. Les seules possibilités qu'on avait fait à l'époque, c'était l'utilisation du sang frais pour les blessures qui sont aujourd'hui autorisées par le comité olympique, ce qu'on appelle l'éjection de PRP aujourd'hui. C'est la seule possibilité.
Ce que dévoile aujourd'hui Charles Lancard, ex-médecin en chef de l'Olympique de Marseille à la fin des années 2000, n'est rien de plus que ce qui se pratiquait dans les grands clubs d'Europe, ceux qui avaient les moyens de s'offrir des opérations à base de PRP pour cicatriser plus rapidement les blessures des tendons, par exemple. Mais ce procédé était à l'époque interdit. L'Agence mondiale antidopage l'a légalisé en 2011, faute de pouvoir différencier les pratiques comme celle du docteur Lancard, qui consiste à soigner, donc à réparer, et celle qui consiste à injecter des PRP, ces plaquettes de sang enrichies, dans les muscles pour prévenir toute lésion et avoir des muscles au top de leur potentiel au fil des matchs. Mais Charles Lancard a quitté le club phocéen pour d'autres raisons, parce qu'il ne souhaitait plus signer les certificats d'arrêt de travail qu'il jugeait plus que limite.
Alors dans le domaine du football, il existe un flou, un petit peu un joueur qui n'est plus dans le staff, il n'est plus contrôlé par l'équipe technique. Voilà, si c'est pour répondre clairement à la question, c'est vrai. Est-ce qu'on m'a demandé de faire des certificats pour écarter un joueur du staff ? On ne me l'a pas demandé directement, mais on m'a dit qu'il serait bon qu'il intègre une structure un petit peu différente pour se performer un petit peu plus à une activité physique. Après, quand les joueurs ne sont plus dans le staff, qu'ils sont plus sous contrôle, on ne peut pas savoir ce qu'ils font, d'accord ? Dans un staff d'une équipe, je veux dire, il y a une trentaine de joueurs. On sait très bien qu'il y en a 11 qui jouent, il y en a 3 sur le banc de touche, je veux dire, donc ça fait 14 joueurs. Donc il y a un effectif à peu près de 21 joueurs et il y a à peu près une dizaine de joueurs qui sont un petit peu sur le côté. Donc de temps en temps, c'est vrai, de toute façon, c'est pas un leurre, je veux dire, de savoir que de temps en temps, ils sont blessés, ils sont en accident de travail parce qu'ils sont reconnus par la sécurité sociale. Ça permet d'alléger peut-être les charges sociales d'un club et ça permet d'alléger un petit peu la masse fiscale d'un club. Et dans ces cas-là, effectivement, des joueurs qui sont un peu blessés, tant qu'ils ne sont pas opérationnels, totalement opérationnels, ils ne sont pas en état de repos de travail. Donc de jouer du football.
Dugarry qui part balle au pied, qui va donner à un de ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Il donne le ballon à destination d'Emmanuel Petit qui marque. Voilà, Emmanuel Petit qui marque. L'équipe de France qui est championne du monde. C'est officiel, c'est sûr, c'est certain. Il ne peut plus rien nous arriver. La France et championne du monde de football.
Lorsque nous déclenchons un contrôle sur l'équipe de France de football qui était en préparation à Tignes.
Marie-Georges Buffet, ex-ministre des Sports en 1998, devant la commission d'enquête du Sénat sur le dopage au printemps dernier.
J'ai tous les médias qui me tombent dessus de façon très violente, puisque j'empêche que l'équipe de France se prépare dans de bonnes conditions. Et il y a un déferlement médiatique. Il faudrait retrouver le nombre d'émissions qui ont été consacrées à cela et la façon dont on a parlé à ce moment-là de ce contrôle inopiné. Je vous le dis, à ce moment-là, dans les heures qui ont suivi, j'ai flanché. J'étais mis au banc, vraiment, et j'ai eu le sentiment qu'on était complètement isolés et qu'on était condamnés par l'opinion parce qu'on avait, oui, on avait perturbé l'équipe de France de football dans sa préparation à la Coupe du Monde. Bon.
Il y a dans un ouvrage... Les scandales du sport contaminés. Un auteur, Eric Métraux, qui a affirmait que l'équipe de France aurait été ou a été épargnée par les contrôles à la demande du ministère des Sports.
Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que nous n'avons jamais donné de directive en ce sens au ministère des Sports.
Il n'y aurait donc pas eu de directive. Pourtant, l'équipe de France de football n'a pas eu à subir d'autres contrôles inopinés dans les mois qui ont précédé la Coupe du Monde 98. La Fédération internationale de football a obligé le ministère des Sports à détruire tous les échantillons de la Coupe du Monde 98 à la suite de contrôles pour éviter toute réanalyse ultérieure, comme cela est obligatoire désormais. La FIFA n'a pas eu à adopter, comme dans le cyclisme d'ailleurs, le passeport biologique créé à l'époque de Marie-Georges Buffet par une équipe française dirigée par Gérardine.
Ils ont adhéré à la Charte mondiale à reculons. D'ailleurs, il y a toujours un certain nombre de points auxquels ils n'ont pas adhéré. Et surtout, depuis 10 ans, il y a une espèce de fluctuation de la position de la FIFA sur les contrôles. C'est-à-dire, en 2002, ils ont intégré les contrôles sanguins à côté des contrôles urinaires et ils les ont supprimés en 2006 en disant que les contrôles sanguins ne servaient à rien. Évidemment, si vous n'utilisez pas de contrôle sanguin, vous ne pouvez pas faire de passeport biologique. Et ils n'ont pas reproduit ces contrôles sanguins en Afrique du Sud. Et donc, le débat actuellement est de savoir s'ils reviennent au contrôle sanguin. Si vous voulez, moi, je ne suis qu'un expert. Comme j'ai quand même été confronté à ce qui s'est passé dans le cyclisme, où on a laissé quand même Armstrong gagner 7 Tours de France, alors qu'on avait les moyens de l'arrêter dès 99. Parce qu'en clair, si l'UCI avait décidé d'utiliser l'outil créé par le ministère français sur le Tour de France 99, Armstrong aurait été hors des clous tout de suite.
Et si les joueurs français de la Juventus de Turin de l'époque étaient concernés dans les dossiers auxquels que vous n'avez jamais pu identifier, évidemment, vous n'aviez pas le nom précis des joueurs, mais si, par hasard, Didier Deschamps et Zinedine Zidane étaient de ces joueurs-là, avec l'application du suivi longitudinal ou tout au moins du passeport biologique, ils auraient été pris aussi.
C'est-à-dire qu'il est évident que si le football s'était mis à appliquer dès 99, la FIFA n'avait aucune raison de le faire, puisque l'UCI, qui était la principale incriminée, ne voulait pas le faire. Donc c'est d'autres fédérations qui l'ont faite, et beaucoup moins puissantes et importantes, surtout en termes financiers, parce que tout ça, ça coûte cher en plus. Donc si le football avait appliqué ça, il est évident qu'un certain nombre de joueurs auraient été suspects. C'est clair et net.
Si la Fédération internationale de football a pu avoir autorité sur les échantillons de la Coupe du Monde disputés en France en les faisant détruire, le ministère des Sports dirigé par Marie-Georges Buffet avait autorité sur les échantillons prélevés lors de stages de préparation de l'équipe de France entre 1997 et 2000. Et ce, alors qu'une équipe du laboratoire de Châtenay-Malabry mettait au point le test de dépistage de l'EPO. La commission d'enquête parlementaire du Sénat a révélé l'été dernier que tous les échantillons du Tour de France cycliste 1998 avaient pourtant été réanalysés a posteriori à but expérimental. Les listings dormaient au ministère des Sports et dans les archives du laboratoire. Alors qu'il y avait eu des soupçons de dopage lors du contrôle de décembre 1997 pour l'équipe de France de football à Tignes, le laboratoire de Châtenay-Malabry, qui était directement à l'époque sous tutelle du ministère des Sports, eh bien, n'aurait pas conservé ces échantillons.
Le problème est de savoir si ces échantillons ont disparu, pourquoi ils ont disparu, qui a commandité la disparition,
ou la destruction,
et qui l'a réalisé. Là, je pense que la commission sénatoriale d'enquête pourrait quand même...
Aurait pu, parce que c'était...
Aurait pu. Là, je pense que l'objet de la commission d'enquête aurait été tout à fait salutaire de pouvoir identifier cette situation.
Il a été dit que c'est parce que ça manquait de place, qu'on ne pouvait pas les garder. ceux de l'équipe de France de football de 98, l'Euro 2000, puisqu'il y a eu des contrôles.
C'est possible, c'est peut-être une raison très bête. Mais c'est, en tout cas, si c'est cette raison-là, elle est très dommage pour le football français. Parce que, en clair, soit il n'y avait rien à reprocher, et donc dans ces cas-là, c'était la preuve absolue qu'il n'y avait rien à dire, et tout le débat actuel serait mort, soit les choses auraient été clarifiées. Le laboratoire antidopage était sous contrôle ministériel complet. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne peut pas avoir les réponses aujourd'hui, et pourquoi, parce qu'il doit bien y avoir des archives.
L'histoire de la place, vous n'y croyez pas?
C'est pas que j'y crois pas, c'est que ça serait quand même bien de voir véritablement un écrit, parce que l'administration a une force en France, c'est qu'elle conserve tous les écrits. Ça, je le sais.
Et puis, que de ne pas garder les échantillons de l'équipe de France de football,
championne du monde en 98, forcément, ça vous fait sourire quand on parle sourire. De
la... Bien sûr que ça me fait sourire, je suis obligé de sourire, parce que je connais un petit peu l'envers du décor, donc je souris. J'espère que c'est pas uniquement que pour masquer des choses qu'on voudrait pas savoir. Ça serait dommage.
Le directeur du laboratoire de Châtenay-Malabry de l'époque, Jacques de Cerise, qui est décédé en 2010, avait été convoqué seul dans le bureau de Marie-Georges Buffet, 3 jours seulement après le contrôle inopiné de Tignes. L'ex-ministre des Sports n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'entretien. D'après nos informations, toutes les réunions de préparation de la Coupe du Monde à Matignon avec les responsables de la lutte antidopage commençaient systématiquement par « Vous n'allez quand même pas nous gâcher la fête ».
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, dopage dans le football, l'enquête interdite, reportage signé Emmanuel Leclerc, réalisé par Annie Brault. Nous sommes toujours avec le médecin du sport, Jean-Pierre de Mondenard. Est-ce que ça vous fait sourire, vous monsieur, cette destruction des échantillons dans le laboratoire de Châtenay-Malabry?
Oui, si c'est effectivement la réalité, ça montre bien que on veut lutter contre le dopage, mais on veut attraper personne. C'est ça le deal. Et de toute façon... Tout est voué à l'échec, puisque c'est le monde du sport qui doit se tirer une balle dans le pied. Donc là, on le voit, le ministre veut pas parler, on sait rien, alors que le dopage, je veux dire, justement, de pas trouver de contrôle positif, de pas trouver de dopage dans le football, c'est qu'il y a un problème, hein, c'est que la lutte anti-dopage est zéro. Ou alors on a affaire à des martiens, les footballeurs sont des martiens, ils viennent de notre planète, voilà exactement.
Ça on n'y croit pas vraiment. Pour vous, le dopage dans le football remonte à quand finalement?
C'est un phénomène récent. Il remonte à partir du moment où un joueur s'est retrouvé sur un terrain avec d'autres pour les battre, donc une confrontation. C'est la compétition qui génère le dopage. Dans les années 20, il y avait un footballeur gallois qui a d'ailleurs fait parler de lui parce qu'il a joué encore en première division anglaise à 50 ans. Et qui, pendant le match, chiquait du tabac. Parce que le tabac, la nicotine est un stimulant. Et aujourd'hui, il y a, dans le baseball américain, il chique du tabac. Dans certains sports du Nord, c'est couramment utilisé. Donc effectivement, ça a toujours existé. Et l'exemple le plus emblématique, c'est dans les années 50, en 58, où un footballeur professionnel italien, Gerardo Ottani, qui va devenir médecin, qui va devenir président de la Société de médecine sportive italienne, va faire une enquête dans le calcio, c'est-à-dire le haut de gamme du football italien. Et là, il va arriver à un constat accablant. 27% des footballeurs prennent des amphétamines, stimulants. 62% prennent des stimulants du cœur et de la respiration. Et 68% prennent des stéroïdes anabolisants. On est en 58. Il y a un seul match par semaine. Il y a 3 entraînements par semaine, donc la dépense énergétique est pas maximale, et on veut nous faire croire qu'aujourd'hui, où ils ont 2 entraînements par jour, 2 matchs par semaine, ils seraient au Vittel Cassis. Non, là aussi, on peut en conclure que ce sont des martiens aujourd'hui.
Alors, comme vous êtes médecin, peut-être un mot quand même des dangers du dopage. On les a pas évoqués dans le reportage d'Emmanuel Leclerc, mais c'est pas simplement une pratique répréhensible, c'est aussi extrêmement dangereux pour la santé des joueurs.
Oui, c'est dangereux, d'autant plus que vous confrontez les produits dopants à l'effort physique. Par exemple, si vous prenez des amphétamines pour regarder un match de football, vous risquez pas grand-chose. Il y avait, par exemple, Jean-Paul Sartre, il prenait 20 de comprimés par jour d'amphétamines, et il a quand même vécu jusqu'à 75 ans. En revanche, si vous prenez les 20 comprimés en question et que vous jouez un match à enjeu maximal, avec dépense énergétique maximale, vous risquez de vous retrouver en réanimation ou même à la morgue. Donc les produits sont surtout dangereux, confrontés à l'effort physique.
Une question d'Emmanuel Leclerc.
Oui, on a beaucoup parlé notamment des joueurs algériens de l'équipe de 1982. C'est tout récent, hein, c'était il y a 2 ans, où plusieurs joueurs se sont plaints d'avoir eu des enfants atteints de malformations avec des maladies étranges.
Oui.
Ils avaient un médecin soviétique hein, à l'époque.
Oui, complètement. Et c'est ce qu'on appelle des effets tératogènes, c'est-à-dire qui sont provoqués pendant la gestation sur l'enfant par la consommation antérieure ou parallèlement de produits, et notamment de produits dopants. Donc, on appelle ça les effets tératogènes. Donc, les enfants naissent avec, par exemple, la main fixée à l'épaule. On appelle ça des phocomels. Et donc le dopage, effectivement, plusieurs produits dopants sont concernés par ce genre de problème. Bien sûr, la fédération algérienne mise en cause a renvoyé, a tapé en touche. Et donc les joueurs attendent toujours que leur histoire soit prise en considération. Mais de toute façon, si on espère que le sport fasse quelque chose contre le dopage, je veux dire, on attendra plusieurs générations.
On va parler bien sûr de la volonté politique, mais encore un mot, Jean-Pierre de Montenard, justement de ce que contiennent finalement ces produits dopants. Est-ce qu'on peut les détecter aujourd'hui si on le veut? Est-ce que les contrôles pourraient être efficaces?
Il pourrait être beaucoup plus efficace, bien sûr, mais il faut qu'il y ait une volonté. On l'a vu, l'affaire Festina est un bon exemple. Dans la foulée de l'affaire Festina, qui a effectivement entraîné une déflagration extraordinaire dans le monde du sport et politique.
C'était du cyclisme.
Exactement, c'était dans le Tour de France 98, où l'équipe Festina a été sortie parce que un soigneur s'est fait épingler à la frontière avec 400 produits dopants différents. Et donc, ces produits, effectivement pris de façon régulière, parce qu'à l'époque, c'était sous forme de cure. Parce que jusque dans les années 60, 70, 80, on prenait des stimulants qui agissaient sur le système nerveux central. Et à partir des années 80, comme les contrôles se sont intensifiés, et on veut passer toujours à travers les contrôles, hein, puisque c'est ça le jeu, hein, c'est de prendre des produits efficaces, mais indécelables. Donc ils sont allés vers d'autres produits qui n'étaient pas décelables, et ils sont passés aux hormones. Donc on a eu les anabolisants, les corticoïdes, l'hormone de croissance, l'érythropoïétine. Et donc chaque fois, il y a eu des avancées. Quand l'EPO, l'érythropoïétine, la fameuse hormone, a été décelée dans les années 2000, eh bien ils ont cherché la parade pour pas être contrôlés positifs. Donc ils sont passés à d'autres EPO qui n'étaient pas décelables. Ensuite, quand celles-ci ont été décelables,
mais
ils sont passés...
Mais c'est une bataille perdue à vous écouter.
Non, c'est pas une bataille perdue si on sort la lutte antidopage du milieu sportif. Tant qu'elle est dans le milieu sportif, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous connaissez un jury d'assises où c'est la propre famille du prévenu qui le juge? Est-ce que vous connaissez un patron, PDG, délégué syndical? Non. Eh bien, dans le sport, c'est comme ça. Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher et ça dure toujours. Donc, on peut attendre longtemps qu'on résolve le problème du dopage.
Emmanuel Leclerc.
Ben justement, effectivement, l'Agence mondiale antidopage est encore cornaquée en grande partie par les fédérations internationales, notamment la FIFA, l'Union cycliste internationale. C'est bien le cas?
Oui, et puis et là vous mettez le doigt vraiment au centre du problème. Comment on peut imaginer qu'une fédération internationale résolve le problème du dopage? Attendez, leur jeu, c'est de montrer que leur sport est fabuleux, que la santé est maximale, que tout va bien, qu'il n'y a pas de tricheurs, que... Attendez, ça ne peut pas marcher. Il faut retirer le dopage, la lutte antidopage, il faut la retirer des fédérations internationales.
Si on se place sur le plan du droit, disons, français, à supposer que la France veuille faire quelque chose dans la lutte contre le dopage, est-ce qu'il faudrait pénaliser, en faire un véritable délit pour que des enquêtes soient possibles? Est-ce que ça, ce serait
pénaliser
un premier pas?
Pénaliser l'usager, c'est ce qu'on a entendu dans
pénaliser
dans
l'usager voilà, qui se dope.
Moi, effectivement, je ne suis pas un spécialiste de ces aspects-là juridiques, mais je conçois, suivant ce que l'on a entendu, et ça paraît clair, que pour vraiment entraîner des enquêtes sérieuses et efficaces, eh bien, il faut pénaliser le dopage.
C'est une tradition française, ça fait 30 ans, que les ministres des sports successifs se sont prononcés contre une double peine, contre la pénalisation de l'usager, contre
pourquoi
une judiciarisation des enquêtes.
Ben, double peine, c'est parce qu'il voilà, il a un risque pénal et puis il y a un risque sportif. Voilà, donc il y a double peine. Mais
comme non. Si le sportif était victime du dopage, c'est ça?
Oui, voilà. Non, je pense qu'on peut pas, évacuer la lutte antidopage, ou en tout cas la réduire, la maîtriser, parce qu'on n'arrivera jamais à supprimer le dopage. Parce qu'il faut rappeler, ça c'est essentiel, c'est que la triche, le mensonge, c'est consubstantiel à l'homme. Donc c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est l'inefficacité de la régulation et de l'empêchement de tricher.
Mais comment on peut expliquer que quand même dans le cyclisme, il y ait eu des affaires retentissantes, et moi je ne sais pas si les cyclistes se dopent moins qu'avant, mais il y a quand même eu vraiment des grosses affaires, et dans le football, rien. Comment expliquez-vous ça?
Bien, parce que la principale raison, c'est que quand la lutte antidopage commence au milieu des années 60, c'est-à-dire les premiers contrôles sur le Tour de France, c'est 66. Pendant 20 ans, 90-95% des contrôles ont lieu que dans le vélo. Le football, on attend 78 pour avoir un premier contrôle. En 78, c'est une finale ou une demi-finale de la Coupe de France. Il y a 4 footballeurs contrôlés. ils sont avertis à l'avance. Et puis le deuxième contrôle, il va arriver un an plus tard. Quoi, je veux dire, ça va être ridicule.
C'est dû à la pression politique que peuvent exercer
c'est parce qu'au départ, il y a un autre facteur qui a joué. C'est que le cyclisme, à son corps défendant, il se passe devant les télévisions en pleine action. Et là, on a vu des accidents dramatiques, tels celui de Tom Simpson en 67. Mais la loi était avant. Donc il y en a eu d'autres avant. Vous avez par exemple aux Jeux Olympiques en 60, aux 100 km contre la montre, qui est une épreuve très dure physiologiquement. Il faisait une température très élevée et un Danois est décédé lors de l'épreuve. On a trouvé des amphétamines dans ses viscères. Et il y en a eu d'autres, hein, et ça n'a pas été le seul. Il y a eu plusieurs cas de décès dans le vélo. Et c'est ça qui a poussé Maurice Herzog, décédé il n'y a pas très longtemps, à
mettre son nom sur une loi.
Mais je l'ai eu à plusieurs reprises parce qu'il a fait la préface du dictionnaire du dopage que j'ai écrit. Et il m'a dit que sa loi n'avait servi à rien. Parce qu'effectivement, les lois, elles sont pas efficaces si les hommes n'agissent pas dans le bon sens. Et de laisser la lutte antidopage dans le monde du sport, le ministère des Sports n'a rien à voir avec la lutte antidopage. Les fédérations n'ont rien à voir avec la lutte antidopage. Il faut mettre le ministère de la Santé et le ministère de la Justice.
On arrive au terme de cette émission. Une toute dernière question. Est-ce que le passeport biologique, par exemple, serait une bonne solution,
c'est toujours une stratégie qui arrive à être efficace. Et donc le passeport biologique fait partie de cette stratégie, mais c'est pas la solution finale. Quoi, je veux dire, il faut un ensemble. Il faut l'OCLAEPS, les gendarmes, il faut
des contrôles inopinés, parce que les syndicats de joueurs tentent évidemment d'éviter les contrôles inopinés durant les congés, par exemple. Alors que l'Agence mondiale antidopage rappelait encore récemment que c'est durant ces périodes-là qu'il est très facile de se charger, comme on dit, de mieux performer.
Et le passeport,
les syndicats des joueurs de foot préfèrent que pendant les vacances, on n'aille pas piquer les joueurs pour prélever leur sang et faire des enquêtes. Merci beaucoup. On vous réinvite, c'est promis, Jean-Pierre de Montenard. On aurait pu continuer cette discussion longtemps. Le magazine de la rédaction Dopage dans le football, enquête interdite, reportage signé Emmanuel Leclerc, réalisé par Annie Brault, à la technique Francis Pascal et Jean Frédérics. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant 100 jours. Postez aussi vos commentaires sur notre site franceculture.fr avec de nombreux bonus mis en ligne par Sébastien Lopoukine.
C'était « Le dopage dans le football », un numéro du magazine de la rédaction présenté par Tara Schlegel avec un reportage d'Emmanuel Leclerc, diffusé pour la première fois le 7 février 2014.